Bonjour à tous, bonjour, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à vous pour cette conversation en compagnie de Jean-Paul Angélibert et d'Antoinette Richner. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux pour cette rencontre qui s'intitule « Écrire l'effondrement ». On va s'intéresser à la fois du côté de la théorie et du côté de la pratique à ces écritures de l'effondrement, à ces fictions apocalyptiques, des fictions dont on se rend compte qu'elles sont extrêmement nombreuses dans le temps présent, dans les années qui viennent de s'écouler et précisément là, aujourd'hui. On va essayer avec l'un et l'autre de comprendre un petit peu ce que ça veut dire, dans quel contexte ça s'inscrit et de quelle manière ça prend corps dans un roman comme celui d'Antoinette Richner dont je vais vous parler dans un tout petit instant. Jean-Paul Angélibert, vous êtes professeur de littérature comparée hein, à Bordeaux, à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez beaucoup travaillé autour de ces récits d'effondrement. Vous avez publié ce livre passionnant qui s'intitule « Fabuler la fin du monde », sous-titré « La puissance critique des fictions d'apocalypse », publié aux éditions de La Découverte, dans lequel vous avez à la fois un regard un peu historique, finalement, sur cette dimension de la fiction. Et puis après, à partir d'un corpus donné, vous avez des analyses assez précises sur la manière dont ça s'inscrit effectivement dans la société et surtout la manière dont vous envisagez ces fictions comme des fictions critiques et comme des fictions tremplins, finalement, vers la possibilité d'un autre monde. Vous, Antoinette, vous avez un roman qui pourrait rentrer dans le corpus de Jean-Paul Angélibert qui s'intitule « Après le monde ». C'est votre deuxième roman après le prix, publié également chez Buchet-Chastel dans cette belle collection « Qui vive ». Un roman dans lequel vous mettez en scène précisément l'effondrement, hein, la catastrophe climatique qui raye une partie de la côte ouest américaine et qui va petit à petit déclencher une sorte d'effet papillon ou d'effet domino qui serait la fin du monde, mais peut-être plus précisément la fin d'un monde, et c'est peut-être là-dessus qu'on va revenir pendant cette conversation, avec en effet un effet domino qui va petit à petit mettre à mal, je dirais, toutes les organisations sociétales, que ça soit les assurances, la finance, la chose politique, l'éducation, etc. Et donc poser l'humanité entre 2022 et 2050 à peu près dans un état de survie et j'ai presque envie de dire d'utopie et d'alternative, mais on va revenir à ces termes-là avec l'un et l'autre. Peut-être, Jean-Paul, pour commencer, un tout petit mot sur... j'évoquais la dimension historique, finalement, du livre, la manière dont vous envisagez à la fois, j'ai envie de dire, la recrudescence de fiction apocalyptique ou d'écriture de l'effondrement aujourd'hui, mais vous revenez un peu plus loin aussi à la manière dont ces fictions ont petit à petit pris corps dans le panorama éditorial, et notamment... en le reliant au 19e siècle, en le reliant à la révolution industrielle. Peut-être vous pouvez nous dire un petit mot de cela pour tirer jusqu'à aujourd'hui avec un certain nombre de jalons.
Je vais commencer par le mot d'effondrement, puisque c'est un mot qui entre dans le titre de ce débat et que vous l'avez beaucoup utilisé dans la présentation. Le mot d'effondrement ne figure qu'à peine dans mon livre, parce que c'est un mot qu'on emploie dans ce contexte depuis très très peu de temps. Et au moment où j'ai écrit ce livre, il y a un peu plus d'un an, on l'employait beaucoup moins qu'aujourd'hui. La fortune du mot effondrement est extrêmement récente et ça se répand très très vite, de sorte qu'aujourd'hui, en février 2020, on oublie presque qu'en 2015, on ne parlait pas d'effondrement. En 2018, à peine, et qu'en fait, c'est un mot qui a énormément de succès depuis 12 ou 18 mois. Donc moi je l'emploie un tout petit peu dans le dernier chapitre, un petit peu par raccro, pour renvoyer à l'actualité qui devient extrêmement forte au moment où je termine d'écrire ce livre. Moi je parle de fiction d'apocalypse. Je parle de fiction d'apocalypse parce que je parle de fiction qui raconte une histoire qui est vieille comme le monde, qui est l'histoire de la fin du monde. Et je pense que beaucoup de civilisations depuis très très longtemps ont imaginé la fin du monde, on n'est pas les premiers. Et si on a une originalité, c'est d'imaginer la fin du monde d'une certaine manière. Et la perspective historique que je me donne, c'est de me demander comment on imagine la fin du monde depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, dans les pays occidentaux. Et je vois là une invention remarquable. C'est qu'au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où commencent à changer les modes de vie, commencent à changer la culture matérielle, commencent à entrer sur la scène l'histoire comme on la connaît aujourd'hui, eh bien on imagine la fin du monde, non plus selon le récit biblique, comme c'était le cas depuis le début de l'ère chrétienne, mais selon un autre récit, qui est un récit moderne. Donc, les premières fictions d'apocalypse moderne, je les date du tout début du 19e siècle. Effectivement, je raconte un petit peu cette histoire et je regarde comment, dans le roman en particulier, mais aussi dans d'autres formes littéraires, elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui.
Il y a une première donnée qui est quand même à l'œuvre, et on va y venir puisqu'il est question de cela dans le livre d'Antoinette, c'est la question du rapport au capital ou au capitalisme, qui est finalement une sorte de fil rouge finalement qui est tendu par rapport à ces fictions d'apocalypse. Peut-être là aussi nous en parler.
Alors il y a une critique de l'idéologie du progrès dans ces fictions, une critique de la technique qui se relie très vite à une critique du capitalisme. Et ça, ça parcourt toutes les fictions d'apocalypse, disons du 19e siècle à aujourd'hui, essentiellement sous les figures d'une critique de l'idée du progrès, de l'idée que le progrès marcherait du même pas, qu'on parle d'innovation technique, de progrès moral et de progrès social. Alors que pour l'ensemble des auteurs dont je parle, le progrès technique est un leurre qui nous empêche de regarder la vérité de l'évolution de nos sociétés. Bon, c'est quelque chose qui se repère effectivement dans l'ensemble de ces fictions depuis le début du 19e siècle.
Dernière chose avant de me tourner vers Antoinette, ce que vous évoquez au tout début du livre aussi, c'est le fait que dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, de l'anthropocène, de la crise écologique, vous dites vous-même que finalement les fictions d'apocalypse aujourd'hui sont d'autant plus fortes, étant donné la possibilité effective de la fin du monde. On est là dans un contexte particulier qui renvoie, j'imagine, au travail d'Antoinette, mais d'abord peut-être nous parler de cela.
Alors, depuis... Pour simplifier un peu, on va donner des dates tranchées, même si tout est toujours un peu plus compliqué que ça. Depuis 1945, on sait que nous avons la possibilité technique de nous anéantir nous-mêmes. Günther Anders a daté de l'explosion de la première bombe atomique le jour où nous avons découvert le moyen d'anéantir la vie humaine sur la Terre. Et effectivement, les romans et les films apocalyptiques ont proliféré à partir du moment où nous avons pris conscience de la possibilité effective de nous anéantir. Et j'explore un certain nombre de textes, de films, de pièces qui s'écrivent dans cette conscience-là et qui sont des réactions à ce savoir et des répliques aussi à la possibilité réelle de l'auto-anéantissement de l'humanité. Effectivement, c'est dans cette filiation-là que Après le Monde s'inscrit, il me semble.
Antoinette, peut-être un premier mot là-dessus, sur cette question-là du contexte, finalement, avec cette possibilité effective d'une fin du monde. Est-ce que c'est une donnée qui enclenche le désir d'écriture autour de cette fiction Alors, je ne sais pas si on doit dire de l'effondrement ou de l'apocalypse. Peut-être, d'ailleurs, pouvez-vous nous en dire un mot.
En tout cas, sur le terme d'effondrement, moi, c'est un terme que j'ai découvert en 2015 à travers un essai qui est maintenant très diffusé, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigné et Raphaël Stevens au Seuil. Donc, ce n'est pas un mot qui est nouveau pour moi, mais je constate aussi qu'en 2015, quand j'en parlais autour de moi... Je voyais peu Dieu s'allumer et maintenant je vois que c'est vraiment un terme qui est très courant, quoi. Après, déjà juste un mot peut-être sur votre livre Jean-Paul Langelibert, c'est que c'était une expérience assez troublante pour moi de le lire parce que c'était presque comme si à bien des égards je lisais mon propre programme d'écriture après avoir écrit. Bon, il y a quand même quelques divergences sur lesquelles je vais revenir certainement, mais il y a beaucoup, beaucoup de points communs effectivement avec les fictions que vous décrivez. Bon, vous avez parlé de cette critique du capitalisme, c'est clair qu'elle est là, puisque dans la reconstruction sociale que je décris, on a des communautés qui fonctionnent par mutualisation, par entraide, etc., et non plus sur l'échange d'argent, quoi. La critique du progrès aussi, j'étais très influencée par, par Günther Anders, moi aussi. Voilà. Après, peut-être, une des grandes différences que j'ai vues, c'était, je crois que vous dites qu'à partir du 21e, en tout cas, dans beaucoup de fictions, on n'explique plus pourquoi l'effondrement est arrivé, en fait. On n'explique plus le comment ça s'est passé. Et moi, au contraire, je pense qu'après Le Monde décrit par le menu. Pourquoi ? Parce que j'avais le sentiment qu'on est très habitué à ces fictions de fin du monde, mais on a le sentiment que ça ne peut pas nous arriver, en fait, c'est impossible. Donc j'avais le besoin d'expliquer pourquoi, comment c'est possible, et de l'ancrer dans quelque chose de très réaliste, très quotidien, pour qu'au contraire, on se dise « oui, ça peut m'arriver demain en tant que lectrice-lecteur ».
Il y a une première chose qu'il faut... Mais Jean-Paul, vous prenez la parole quand vous le souhaitez.
Je comprends bien, ça, c'est intéressant. Moi, effectivement, je me suis intéressé surtout à des romans qui donnent la catastrophe comme déjà arrivée et qui ne s'intéressent pas à son origine, elle est supposée, connue, ou elle n'est pas très intéressante. On va parler de l'après. Et vous faites le contraire. Il y a un côté très, très engagé dans cette écriture-là qui signifie effectivement « ça peut nous arriver ». C'est un cas de figure que j'ai beaucoup moins observé dans les romans que j'ai étudiés. Et c'est peut-être aussi un signe du temps. C'est peut-être une bascule, parce que tout se produit très très vite. Et comme ces livres... sont des livres d'auteurs qui se lisent tous les uns les autres. Je crois que l'écriture de ces fictions évolue très très rapidement. Et là, il y a peut-être un signe d'époque et d'une époque qui bouge très très vite. Ce que je voulais dire sur le monde effondrement et cette stratégie d'écriture, c'est qu'en fait, il y a deux types de fiction. Il y a celles qui sont un petit peu des vaccines et qui nous habituent à vivre dans un univers dévasté sans nous impliquer réellement dans la possibilité effective que ça arrive. Et puis celles, au contraire, comme celle d'Antoinette, qui sont des avertissements et qui... veulent nous avertir de quelque chose qui est déjà à l'œuvre dans le monde présent. Et là, il y a une ligne de fracture.
Et peut-être on peut d'ailleurs reparler de ce que vous décrivez d'abord, qui est l'avant. C'est-à-dire qu'il y a un long prologue aussi dans lequel vous décrivez finalement les modes de vie ou le rapport au monde qui précède justement 2022, cette catastrophe climatique. Et c'est une sorte de litanie que vous donnez avec beaucoup de distance, finalement, une écriture très factuelle, mais avec beaucoup de force, finalement, là derrière. Vous aviez non seulement envie de décrire ce qui se produit au moment de la catastrophe, mais de produire aussi l'avant. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce choix-là, de ce choix narratif-là ?
Alors, en fait, c'est un prologue qui décrit le monde, notre monde d'aujourd'hui. Mais il est écrit à l'imparfait, donc on peut, dès les premières lignes, se rendre compte que c'est quelque chose de déjà passé. Je pense qu'il est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que oui, c'est sans doute le passage le plus critique, même si après ce que je décris, le nouveau monde, l'autre monde, c'est aussi une figure pour critiquer notre monde d'aujourd'hui, évidemment. Mais je crois que dans ce premier passage, c'est vraiment une description, un portrait de société, de nos sociétés dites développées à économie de marché, et d'une catégorie sociale aussi, pour dire vite, peut-être bobo, voilà, donc je m'applique complètement dans ce terme-là. Mais donc, il y a cet effet critique, cet effet très ironique. Et en même temps, dans le passé, il y a peut-être une nostalgie, ou disons, dans le fait de dire, regardez notre monde d'aujourd'hui qui n'en a plus pour longtemps, on peut quand même aussi à la fois voir l'insignifiance de certains de nos gestes et à la fois... faire apparaître une valeur, en fait, de ce qu'on a. Donc je sais que dans votre livre, vous parlez de faire apparaître, par exemple, la valeur de l'amour dans le film 444, je crois. Oui. Alors moi, je vais parler de choses beaucoup plus prosaïques, mais c'est vrai que moi, simplement de penser à ça, c'est faire apparaître la valeur de l'eau courante ou des transports publics ou de ce qu'on risque de perdre, en fait. C'était traverser ces idées-là aussi, l'écriture de ce livre.
Ce que vous dites aussi dans ce prologue, c'est que, toujours à l'imparfait, c'est que nous ne croyions pas ce que nous savions. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion sur la prise de conscience, sur la responsabilité et ou la culpabilité, mais aussi cette espèce de va-et-vient et de paradoxe entre la science qui sait et une forme d'irrationalité finalement dans le rapport au monde. C'est une des dynamiques aussi de la catastrophe vers laquelle on s'avance.
Oui, mais on est très informés, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on n'arrive pas à croire que ça peut nous arriver. Donc cette idée de ne pas croire ce qu'on sait, c'est une idée que j'ai empruntée à Dupuis, le catastrophisme éclairé. Je trouve que c'est très troublant de savoir à quel point on est informé, surtout, je pense, dans la couche de société à laquelle j'appartiens. Et pourtant, on ne semble pas du tout prêt à un changement radical de mode de vie, au contraire. Et même, je crois, dans la catastrophe la plus évidente, qui est celle du changement climatique, on est très informé. Mais j'ai l'impression que tout se passe comme si on se dit, bon, ben, il y aura quelques degrés de plus. Au lieu de le comprendre comme une moyenne planétaire, on reçoit ces chiffres de moyenne planétaire et au lieu de comprendre que ça va être des événements extrêmes localement, on se dit, bon, ben, il fera quelques degrés de plus, mais on aura toujours la même vie, ce sera toujours le même monde. On ne peut pas se dire que non, ce serait un monde totalement différent de celui dans lequel on vit maintenant.
Jean-Paul, peut-être sur cette idée aussi du rapport au passé, puisque vous, le premier chapitre du livre est intitulé « Faire table rase », hein, c'est une des premières fonctions, finalement, de la fiction d'Apocalypse. Là encore, vous pouvez peut-être revenir là-dessus, puisque ça fait écho au travail d'Antoinette.
Je trouve l'idée que nous ne croyons pas ce que nous savons très importante, et les fictions servent à ça. Le point de départ de toutes ces fictions, c'est de trouver des récits pour nous convaincre que ce que nous savons est vrai, pour arriver à nous faire croire à ce que nous savons. Et ça passe par l'imagination, ça passe par la représentation de quelque chose que nous savons alors que c'est inconcevable. Et il faut toute la puissance de l'imagination pour arriver à représenter ce qu'on sait très bien qui est vrai, mais qui n'est pas encore arrivé à la représentation. Les fictions servent à ça. Et c'est ça ce qui les distingue de tous les discours des philosophes et de tous les discours des savants. Les savants peuvent multiplier les explications et les prévisions. Ça ne convainc personne autant qu'une fiction qui est la seule forme à même de nous faire imaginer ce que nous sommes bien obligés de savoir, mais que nous sommes impuissants à imaginer. Il y avait une deuxième dimension à votre question que j'oublie,
je crois.
Non,
c'était sur la table rase.
La table rase, oui. Notre monde va disparaître et ce que ces fictions font, c'est rendre cette disparition présente. Donc, elles font table rase de ce qui est notre présent et ce qui est, dans ces histoires, donc un passé. Effectivement, c'est le geste d'Antoinette aussi, dans ses premiers chapitres. Voilà, c'est se débarrasser du monde, en faire une chose du passé, pour imaginer autre chose. Et le geste profondément politique de toutes ces fictions, c'est justement de nous permettre d'imaginer autre chose. La grande singularité de notre époque, pourquoi aussi cette époque est extrêmement rude, c'est que nous sommes obligés de faire table rase du monde pour en imaginer un autre.
Sur la table rase, je voudrais dire que c'est quand même aussi un endroit de jubilation en fait, dans l'écriture, vu qu'une fois qu'on s'est débarrassé justement de notre monde, c'est là qu'on a une sorte de terrain vierge pour réinventer, je sais pas, des règles sociétales, une politique nouvelle, etc. Après, ça peut être aussi embarrassant parce qu'on ne peut pas inventer la poudre. Enfin, par exemple, un cas concret d'écriture, il y a un chapitre où il y a un groupe de personnes qui commettent un meurtre xénophobe revendiqué comme tel. Donc évidemment que moi, j'ai envie de punir ces meurtriers. Donc je crée une scène de tribunal, une scène de justice, parce que la justice continue. Enfin, c'est renouvelé quand même dans ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe au moment où ils sont déclarés coupables? Moi, j'ai pas envie de réinventer la peine de mort, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais finalement? Je m'en suis sortie avec une situation de bannissement, et pour les stigmatiser, en fait, on les enduit sorte de jus de betterave fermenté qui va leur colorer la peau. Et il y a une interdiction dans cette communauté, les communautés voisines, d'accueillir ces personnes-là ou de faire commerce avec elles. Et puisque je crois quand même, la possibilité des individus d'évoluer, de changer, de s'améliorer, ben c'est un tatouage qui est non permanent, un tatouage qui part au fil du temps. Donc après, on imagine qu'ils peuvent réintégrer une autre communauté. C'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais disons que tout d'un coup, je trouve que dans le geste de réinventer une société, ben on est aux prises avec des fondamentaux en fait. Comment, parce qu'un monde meilleur, c'est quoi un monde meilleur? C'est infini, quoi, comme question.
Et là, vous imaginez finalement la manière dont une société pourrait se reconstruire sur d'autres valeurs, sur d'autres modes. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous commencez finalement par décrire, alors je ne sais pas si on doit dire la fin du monde, la fin d'un monde, l'apocalypse, l'effondrement. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Parce que est-ce que là, vous êtes dans un mode de fiction, d'imagination? Est-ce que vous travaillez à partir de... précisément de théorie, de prévision. Quelle est la réalité de l'imagination de la fin du monde que vous mettez en œuvre? Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette dimension-là, en dehors même de la reconstruction finalement d'une société?
Dans le processus d'effondrement lui-même, je me suis documentée, c'est basé sur des théories, une que j'ai suivie de manière assez stricte. C'est un auteur russo-américain qui s'appelle Dmitri Orlov, qui a théorisé l'effondrement en 5 étapes. D'abord la sphère purement financière qui s'étend à l'économie réelle, qui cause des troubles politiques, qui vont causer des troubles sociaux. Puis lui, après, il a encore une dernière étape qu'il appelle l'effondrement culturel, qui serait en fait la perte de la capacité d'empathie et puis la capacité de prendre soin d'autrui, si on veut. Mais je ne voulais pas aller si loin. Enfin, c'est clair qu'il y a de la barbarie, il y a des tortionnaires, il y a des choses atroces, mais parce que je pense que c'est une vérité aussi dans un monde où les ressources sont rares. Mais j'avais envie de garder... Quand on parle de la table rase, est-ce qu'on crée un enfer ou un paradis? J'avais vraiment envie des deux. Donc, j'ai pas choisi l'enfer ou le paradis. J'ai mis un peu de tout dans cet univers-là.
Avec sans doute l'envie ou l'idée de réfléchir à la manière dont l'humanité, avec les ressorts qui sont les siens... peut à un moment donné s'inscrire dans une nouvelle société, dans une nouvelle vision. C'est-à-dire que c'est aussi comment est-ce que la nature humaine à cet endroit-là trouve des ressources, trouve des ressorts. C'est une réflexion finalement sur la manière dont on habite le monde, notre présence au monde, vous diriez ça plus largement?
Oui, je pense que le changement fait peur tant qu'on est encore dans notre fonctionnement actuel, mais en fait, une fois qu'on est précipité, alors c'est le choix que j'ai fait d'un effondrement qui arrive brutalement, il y a des thèses qui parlent pour un effondrement beaucoup plus graduel. Moi, évidemment, parce que c'était plus spectaculaire et aussi parce que je le croyais possible, j'ai fait ce choix d'un effondrement brutal. De toute façon que, oui, on le subit, on est précipité dans le changement, mais c'est aussi peut-être le lieu où on va se découvrir, on sait que dans l'adversité, on se découvre des ressources. Donc ça, j'y crois tout à fait. Ouais. Et aussi sur l'aspect de solidarité, je pense que c'est une réalité. En fait, c'est devant la menace qu'on se découvre ce qu'on a en commun, ce qu'on essaie de conserver quand même, de nos acquis fondamentaux. Justement, ce que Dmitri Orlov appelle l'effondrement culturel, ben, je pense qu'on est nombreux à souhaiter qu'il ne se produise pas. Donc par quel moyen on arrive à lutter pour empêcher qu'il se produise?
Peut-être, Jean-Paul, réagir sur cette dimension-là, parce que c'est au cœur du livre aussi.
Oui. Y a effectivement beaucoup de romans qui jouent sur les deux tableaux, enfer et paradis, parce que quand on reconstruit une société à partir de rien, tout est possible. Et c'est pour ça que ces fictions sont des laboratoires d'expérimentation politique très intéressants. On peut tout imaginer et on peut y reconstruire à partir des prémices qu'on veut, des sociétés qui représenteront ce qu'on voudra. Alors beaucoup de ces fictions mettent en scène des enfers post-apocalyptiques, mais un certain nombre sont aussi des utopies, parce que l'utopie s'imagine après la catastrophe. La catastrophe libère le monde de ses pesanteurs, libère le monde de tout ce qui a fait notre chute, et la réinvention d'une société bonne, la réinvention d'une économie saine, d'un rapport à la nature sain, etc. Tout ça est possible. Alors, il y a des exemples, bon, je ne sais pas si c'est le moment d'en donner d'autres, mais il y a des exemples tout à fait connus de cette dualité-là. Dans la littérature française, il y a un roman très très connu, qui est un petit peu ancien maintenant, qui est Malville de Robert Merle. Un bon roman populaire publié au début des années 70 qui imagine une guerre nucléaire qui dévaste tout, en tout cas tout le territoire auquel on peut avoir accès depuis le point d'observation qui nous est donné. Et les quelques survivants qui se trouvent dans un château reconstruisent une société utopique. Et la forme de cette société utopique, c'est un communisme primitif, comme on pouvait l'imaginer dans les années 70. Donc, c'est un exemple parmi mille de fictions qui se sert du scénario de l'apocalypse pour imaginer un petit laboratoire politique, qui est aussi celui qu'Antoinette imagine, donc avec des références qui sont celles d'aujourd'hui.
Mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes, donc je n'ai pas lu Malville, mais en lisant les extraits, ce que vous en dites dans votre livre, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. J'ai d'ailleurs repéré un petit extrait que je pourrais peut-être lire.
Bien sûr.
Mais je voudrais juste revenir sur l'idée du cette idée de créer un nouveau monde à travers le communisme. Dans mon livre, il y a une phrase qui dit « Nous laissions fonctionner un peu de capitalisme local pour reconstruire, je ne sais plus exactement comment ». Mais ça m'a beaucoup questionnée. Est-ce que j'enlève cette phrase, je la garde? Bon, et puis, en fait, finalement, je l'ai gardée parce que j'ai l'impression que c'est pas le verre est dans la pomme, le capitalisme. Dès qu'il y a un soupçon de capitalisme, c'est forcément la destruction du monde, en fait. J'ai l'impression qu'on peut. La question est vraiment une question de mesure et qu'on peut dater assez précisément quand on a commencé à évoluer vers un monde où une poignée de multinationales possède ce continent, quoi. Enfin, il y a vraiment, je pense, dans les années 80, Margaret Thatcher, Reagan, qui ont commencé à promouvoir toutes ces privatisations. Je ne sais pas, le fait qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter directement aux États, qu'elle doit passer par des banques privées, commerciales, qui forcément ont une autre logique. Tout ça, ça vient pas de rien, quoi. C'est vraiment des lois qui sont apparues et qui ont permis, tout d'un coup, en 40 ans, une démesure totale. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien penser à des garde-fous et garder peut-être. Enfin, je me dis, la propriété privée en soi n'est pas forcément une fatalité de destruction, quoi.
Ce qui est intéressant quand on vous entend, c'est que vous êtes évidemment pétri de lectures, de ces théories, de ces références et même d'une sorte de vision politique finalement de l'avenir. Et pour autant, votre livre est un pur roman. Peut-être vous pouvez nous parler aussi de la manière dont vous avez construit vos personnages. Alors peut-être Barbara et Christelle, mais pas seulement, ils sont très nombreux. Comment est-ce que justement, et c'est ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, comment les fictions, l'incarnation dans des personnages, le rapport aux détails, au quotidien, aux minuscules, à l'intime, etc., qui sont les armes de la littérature, permettent une réflexion de cet ordre-là, mais qui n'est pas une réflexion politique à proprement parler.
C'est le fruit de mon immersion dans l'imaginaire, dans les représentations que j'ai essayé de me faire, d'abord de l'effondrement lui-même et puis de ce qui venait ensuite. Je crois que ce qui s'est passé, c'est un peu deux travaux en parallèle. Quand je lisais ces essais qui étaient théoriques, j'avais souvent ce que je peux appeler des sortes d'images flash, enfin une situation qui m'apparaît, une situation qui cristallise une tension ou une tension dramatique ou entre des personnages. Donc je note ça, voilà. Après, j'ai un certain stock d'idées comme ça, de situations qui ne vont pas toutes être exploitées, évidemment, mais certaines le seront, d'autres pas. Et en parallèle, j'ai commencé par écrire les chants, qui sont donc ces strates du texte qui sont écrits au nous féminin pluriel, qui décrivent globalement, collectivement, les transformations. Et puis, je savais que je voulais alterner ça avec des chapitres qui, justement, allaient être plus des focus sur des situations avec des personnages incarnés, des personnages individués. Mais ça, j'ai cherché à un moment, justement, la structure exacte de ça et quels étaient mes personnages, quelle identité, quels enjeux, quels moteurs. Bon, j'avais cette Barbara et Christelle très vite. Je savais aussi que le lien entre les deux strates, ce serait que les chants auxquels on a accès sont écrits par ces deux personnages qu'on va suivre. Et je savais aussi que ce serait des personnages principaux, dans le sens où même si après tous les chapitres sont construits sur un autre point de vue, une autre femme, ce serait quand même des faux personnages secondaires. Enfin, ce serait des personnages secondaires, les autres qui raconteraient plutôt l'évolution de Barbara et Christelle, en fait. À un moment donné, je termine juste sur comment j'ai procédé. Je me suis calée sur la structure de l'alphabet et j'ai repris toutes mes notes que j'avais pour des idées de situation, en cherchant où je pouvais les mettre, quel personnage pouvait porter de quelle situation, par quel biais, est-ce que c'était un souvenir, est-ce que c'était une situation présente, etc.
Oui, on en revient à la question de tout à l'heure. La question, c'est comment peut-on imaginer ce que nous savons ? On imagine ce que nous savons quand on est plongé dans un monde sensible. On est plongé dans un monde sensible quand le roman nous donne des détails concrets, qui nous permettent de nous figurer comment on vit dans ce monde-là. On vit dans un monde sensible quand on sait comment les personnages mangent, quand on sait comment ils font leur toilette, quand on sait comment ils se rencontrent, comment ils vivent, les détails les plus infimes de leur vie quotidienne. Donc on est plongé dans le monde sensible de l'après, quand le roman est assez réaliste pour nous faire toucher ce que c'est que vivre dans ce monde-là. Et c'est pour ça que les fictions les plus intéressantes de l'apocalypse ou de l'effondrement sont aussi les fictions les plus réalistes. Celles qui contiennent les détails les plus microscopiques sur la manière dont est composée la vie concrète, le vécu de la vie.
Et peut-être, Antoinette, sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur ce champ, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du cœur, enfin quelque chose de cet ordre-là, et vous avez dit que ce champ, il était au féminin pluriel, ce qui pourrait presque être là aussi une sorte de programme politique, c'est-à-dire à la fois le pluriel, c'est-à-dire le commun, le collectif, et Jean-Paul pourra peut-être en parler, parce qu'il est beaucoup question de ça aussi dans son livre, et puis la question de la féminité, ou du féminin, ou du féminisme, de la sororité, de dimensions qui sont aussi un ancrage dans le monde d'aujourd'hui, ou en tout cas dans le monde de demain, peut-être.
Oui, c'est bien sûr aussi un choix politique. Cette féminisation, elle a lieu à plusieurs niveaux. Elle a lieu justement dans le fait d'avoir choisi de construire tout ça uniquement sur des personnages féminins. Elle a lieu à un endroit grammatical, parce que tout est accordé, en tout cas dans les champs, au féminin pluriel. Il y a aussi après, à d'autres degrés, le fait par exemple d'assez peu les décrire physiquement de l'extérieur, mais de décrire plutôt ce qu'elles vivent de l'intérieur en habitant un corps de femme. Aussi avec justement le détail, le réalisme physiologique de ce que c'est que d'être une femme. Il y a peut-être aussi le fait de... Alors, il y a le rapport à la parentalité, à la maternité, que j'ai décliné aussi dans différents cas de figure. Mais il y a aussi, je pense, la moitié de ces personnages féminins qui ne sont pas du tout décrits à travers leur situation privée, matrimoniale ou pas, ou est-ce qu'elles sont en couple ou pas, ou est-ce qu'elles ont des enfants ou pas, mais vraiment uniquement à travers leur fonction publique, parce que je trouvais que c'était important aussi de montrer des personnages féminins qui jouissent d'autodétermination, qui ont des positions sociales importantes. Non pas que je décris un monde où les hommes n'ont pas droit à ces fonctions-là, mais ce n'est pas un patriarcat inversé du tout, c'est simplement un monde d'égalité, en fait, d'équité. Et puis, enfin, je pense qu'il y a aussi la volonté peut-être de montrer des femmes qui véhiculent elles-mêmes des pensées misogynes, parce que c'est une réalité aussi, en fait. Et que j'ai l'impression que si on veut vraiment être solidaire et faire advenir un monde plus égal, on est obligé de se demander... où ces représentations misogynes se logent en nous, en fait. Typiquement, il y a une scène où on parle d'une sorte de mutilation génitale qui provoque un sentiment d'excitation chez une autre femme. Et pour moi, ça me rappelle un petit peu ce que Virginie Despentes a décrit dans King Kong Theory. Elle parle des femmes qui ont le fantasme d'une certaine brutalité sur elles-mêmes, comme si jouir pour une femme, c'était pas obligatoirement, mais souvent, à travers une idée de brutalité exercée sur elles. J'ai toujours trouvé que c'était très courageux de sa part de parler de ce fantasme qui est personnel, mais dans lequel d'autres femmes pourront certainement se retrouver. Et j'avais envie de montrer ça aussi, cette fameuse culture du viol qu'en fait nous-mêmes on la porte aussi, et que pour s'en débarrasser il faut aussi pouvoir l'identifier en nous, je pense.
On se rend compte combien King Kong Theory a été un livre important pour beaucoup d'écrivains et de Jean-Paul, vous vouliez réagir ou...
Non, je pensais à la question des communs, mais on peut...
Ouais, mais allez-y, je vous en prie, parce que mais c'est des choses qu'on a évoquées, mais que vous dites beaucoup au cœur du livre, c'est-à-dire que ces fictions de l'apocalypse ne sont pas des fictions nihilistes, c'est des fictions, effectivement, critiques et des fictions de construction, si on peut dire, ce qui est tout à fait le cas d'Antoinette, et le commun, ouais. Il est au cœur de cela, bien sûr. Ouais.
Bon, c'est un peu le cœur de ce que j'essaye de dire dans cet essai, c'est que aujourd'hui, pour imaginer... La reconstruction des communs, on en passe souvent par la destruction du monde. C'est comme s'il fallait détruire le monde pour réinstaurer des communs. Enfin, des communs qui soient vraiment consistants, des communs avec lesquels on puisse vraiment vivre. Alors, je parle de ça à propos de ma ville, parce que c'est un exemple très, très commode, où tout est facile à raconter à propos de ma ville. Je prendrai d'autres exemples tout à l'heure, si on a le temps, mais... dans Malville, il y a une petite communauté de 7 survivants qui reprend possession de l'ancien château et qui en fait une propriété commune. Et il n'est plus du tout question de propriété individuelle. La propriété individuelle des moyens de production a été éradiquée. Et on réimagine une vie collective entièrement communautaire, qui est évidemment facilitée par la petite taille de la communauté, mais quand elle va s'agrandir, on va trouver les moyens aussi de fabriquer, enfin, d'élargir cette communauté aux nouveaux arrivants et de fabriquer une nouvelle société adaptée à ces nouveaux moyens de production qui sont calqués sur ce qu'on connaissait dans un temps assez reculé, dans une espèce de Moyen-Âge reconstitué aujourd'hui. Ce qui fait que dans ces romans, on regarde vers une reconstruction des communs dans l'avenir, mais en même temps avec un œil vers le passé, parce qu'on les reconstitue aussi avec une image du passé dont on ne peut pas se débarrasser. D'une certaine manière, le passé ne disparaît jamais complètement. C'est un fantasme du passé qui revient dans le futur. C'est une espèce de Moyen-Âge fantasmé qui reconstruit les communs dans l'avenir post-atomique de Malville. Et c'est aussi ça, l'utopie. Elle regarde à la fois en avant et en arrière.
Oui, enfin, moi j'ai aussi l'impression d'avoir regardé en arrière, notamment ce qui était par exemple des nouveaux métiers. Enfin, quels seront les métiers si on imagine que l'industrie ou en tout cas que les approvisionnements mondialisés sont supprimés, ben, il reste comme l'artisanat, donc un renouveau de l'artisanat. Dans des questions aussi de démographie, de mortalité infantile, oui, j'ai été très inspirée quand même par l'histoire.
Oui, puis il y a cette idée finalement que la survie, enfin ce qu'aujourd'hui on envisage comme étant une forme de survie, est un retour à une forme de vie peut-être plus essentielle. Enfin, en tout cas, il y a cette dimension-là aussi dans le parcours des personnages.
Oui, ben ça part de quelque chose qui touche vraiment à nos infrastructures matérielles d'abord. Donc simplement, on a moins d'énergie, on a moins de matériaux, on a moins de marchandises, donc ça se réduit. Mais ce qui serait un peu le fantasme aussi de cet effondrement, c'est qu'on perd sur ce plan-là, mais on gagne symboliquement en densité de vie. Ouais. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur
mais
le passage...
Je vous en prie.
Donc c'est justement ce livre que je n'ai pas lu, Malville de Robert Merle. Car cette société où chacun se retrouve en soi-même en même temps qu'il se fond dans le tout est heureuse. Comme le récit le souligne à plusieurs reprises, après la bombe, la vie est meilleure. Depuis le jour de l'événement, ça c'est une citation, depuis le jour de l'événement, l'amour de la vie s'est intensifié et les plaisirs sociaux sont plus vifs. Ou encore, une autre citation, si on vit plus lentement, si les jours et les années ne passent plus devant notre nez à une vitesse effrayante, si on a le temps de vivre enfin, je me demande ce qu'on a perdu. La vie est plus pleine parce qu'elle est pleinement collective. Et je voulais vous lire un extrait de mon roman que je trouve très en lien avec cet extrait-là.
Vous faites tout le travail, en fait, Antoinette, c'est parfait.
J'ai bossé un peu le truc. Est-ce que depuis longtemps déjà, s'intéresser aux autres, aller marcher, courir, jouer de la musique, lire, faire une partie d'échecs ou pratiquer le jardinage ne rendait pas certaines d'entre nous plus heureuses que le shopping ou le vol en avion ? S'épanouir touche aussi au respect de ses pairs, à la possibilité de donner et de recevoir, d'apporter une pierre utile à sa communauté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ces profils fichés selon leurs préférences, ces anonymes aux désirs analysés, répertoriés, au pouvoir d'achat sans cesse évalué. Nous interagissons au quotidien avec nos voisines, et si notre monde n'est pas exempt de conflits, aucune des violences d'aujourd'hui n'exercera jamais une domination aussi puissante et obscure que les algorithmes d'autrefois. Du reste, lorsque prennent fin nos temps de travail et que nous regardons tomber le soir en écoutant nos corps répondre aux efforts du jour, ne nous arrive-t-il pas de penser que nous avons gagné au change ? Nos nouvelles vies nous apportant des formes pérennes d'apaisement, de plénitude et pourquoi pas de liberté.
En effet, c'est un bel écho. Peut-être, Jean-Paul, je vois que le temps passe très très vite. On a évoqué tout à l'heure, avant la rencontre, là, on a discuté ensemble tous les deux, quelque chose que vous évoquez aussi autour de la figure messianique. Et finalement, un terme qui est utilisé dans le texte une ou deux fois, qui est le terme de sacré. Oui. Peut-être vous pouvez nous parler aussi de cette dimension-là. C'est notamment le cas lorsque vous parlez de l'appel à l'action, des liens entre Pasolini et Didi Huberman, et puis de la philosophie de Jean-Luc Nancy.
Oui.
Ça fait beaucoup de questions à la fois.
Tout d'un coup, j'ai peur que ce soit un peu écrasant. Je vais partir d'un exemple pour essayer de rendre ça un peu plus concret. Dans Malville, ce qui est sacré, c'est les communautés elles-mêmes. C'est explicite dans le texte de Robert Merle, ce que les habitants de cette petite communauté considèrent comme sacré, c'est la communauté elle-même. Et sans cette sacralité, il n'y aurait pas de communauté. Aujourd'hui, ce qui fait monde, c'est un monde d'où la sacralité a très largement disparu. Et ce qui se reconstitue comme monde dans ces après, dans ces après-apocalypse, ce sont justement des mondes qui sont organisés autour de ce que Nancy, puisque vous m'invitez à le citer, appelle un inestimable, quelque chose qui se situe en dehors du calcul, qui se situe en dehors de la rationalité économique et qui dépasse tout calcul de rationalité possible. Nancy évite soigneusement d'appeler ça le sacré, mais on ne voit pas vraiment comment on pourrait l'appeler autrement. L'inestimable ou le sacré. Pour parler un peu plus brutalement que lui, j'ai osé appeler ça le sacré. Il n'y a pas du tout de dimension religieuse là-dedans. Mais quand même, on est obligé de passer par ce vocabulaire-là. Si on veut reconstruire un monde qui échappe au règne du chiffre, de la rationalité économique, de l'argent et du calcul, on est obligé de le construire autour de quelque chose qui débordera de tous côtés le calcul. Et donc, autour de quelque chose qu'on sera bien obligé de considérer comme intouchable, absolu, c'est-à-dire exactement comme sacré. L'exemple que je voulais prendre, c'est celui d'un roman italien récent de Davide Longo. Le roman s'appelle L'homme vertical. Il est paru dans les années 2010. Le pays dans lequel l'histoire se passe s'effondre un petit peu sur le modèle qu'a suivi Antoinette dans son roman. Et on suit l'aventure d'un père et de sa fille qui essayent d'échapper aux bandes de pillards qui se mettent à courir le pays pour piller, tuer, violer, etc. Ils essayent de s'en sortir le plus honnêtement possible, sans faire de mal à personne et en évitant tous les dangers qui peuvent les menacer. Évidemment, ils n'y arrivent pas. Mais ils arriveront à s'échapper de la bande qui les avait retenus prisonniers. Et ils arriveront à refonder une petite communauté tout à fait à la fin. Et à la fin, naît un enfant. Et il y a des passages, des pages très émouvantes tout à fait à la fin, où naît cet enfant qui n'aura pas connu le monde d'avant, et c'est le seul personnage de cette fiction qui n'ait pas connu le monde d'avant, qui naît au milieu de la catastrophe, dans un pays où il n'y a plus rien, où la seule communauté vivable est un petit peu loin, elle est à peine esquissée dans le roman. Les gens viennent rendre visite au père, à la fille et donc au bébé quand il arrive. Il semble qu'ils s'organisent en communauté utopique, mais on ne sait quasiment rien d'eux. Et autour de cette de cette naissance, on est conduit à imaginer un événement messianique, ou plutôt cette naissance, on la regarde comme un événement messianique. Il y a là quelque chose qui nous sauve, c'est cet enfant pour lequel on a toute la considération du monde, tout l'amour du monde. Cet enfant qui est en lui-même une promesse absolue, bon, parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il sera porteur, mais en tout cas, il est porteur de tout l'espoir possible parce qu'il vient après et en dehors.
Il y a cette idée aussi, pardon, de cette parenthèse. Il y a cette idée, par exemple, dans un livre comme La Route de McCarthy.
C'est la même chose.
Très fort.
C'est la même chose. L'enfant de La Route, qui a sans doute un exemple plus connu que celui du roman de David Elongo, c'est aussi cette figure messianique parce que cet enfant est né pendant l'événement qui a mis fin à notre monde. Et il n'est absolument pas comptable de ce qui s'est passé avant. L'enfant ne peut pas être tenu pour responsable de la catastrophe puisqu'il ne l'a pas connue. Et il n'en connaîtra jamais rien. Son père prend bien garde à lui dire, et c'est extrêmement significatif, que le jour où il se mettra à rêver du monde d'avant et où il le regrettera, à ce moment-là, tout sera foutu. Il ne faut absolument pas regretter le monde d'avant, même si le monde d'avant quand même est formidablement confortable par rapport à ce qu'ils vivent à ce moment-là. Enfin, non, la route, tout est dévastée, la vie est extrêmement dure, ils ont froid, ils ont faim, ils sont menacés par des pillards à tout moment. Enfin, la vie est extrêmement dangereuse et difficile. Mais il ne faut jamais regretter le monde d'avant, parce qu'au moment où on regrettera ce qui nous a mené à la catastrophe, à ce moment-là, tout sera perdu. La seule manière de sauver, c'est de porter autre chose, mais autre chose qui est une altérité absolue. Et ce que ces romans arrivent à nous faire imaginer et à nous faire désirer, c'est cette altérité absolue qui est la seule manière de nous sauver. Et l'enfant porte ça. Effectivement, ce sont souvent des figures d'enfants qui peuvent porter cette promesse, parce que ce sont des enfants qui peuvent symboliser ou incarner cette promesse de renouveau. Bon, ce sont des figures dont les auteurs font tout pour qu'elles ne soient pas tout à fait christiques.
Oui, c'est ça. Peut-être, Antoinette, encore une petite question par rapport au chant et à l'épopée, à finalement presque une dimension de résistance, finalement. Il y a quelque chose de cet ordre. À la fin du livre, l'un des derniers chants s'appelle « Chant pour tenir ». Et il y a là une dimension qui est vraiment une dimension, je ne sais pas si on doit dire d'espoir ou d'espérance, ou en tout cas quelque chose qui se tourne dans ce sens-là. Ce que décrit Jean-Paul, c'est aussi à l'œuvre dans la dynamique de votre roman.
Et d'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Christelle.
Je ne vais pas faire de commentaires sur Christelle, mais oui, ce chant pour tenir, je pense qu'il est un petit peu ambigu, parce qu'on pourrait le comprendre à la fois comme une impulsion à la lutte politique ou à la lutte pour faire advenir autre chose, le moins injuste. À la fois, on peut le comprendre comme une consolation pure et simple, en fait, qui sert à rien sauf à nous consoler. Et peut-être qu'on pourrait aussi le prendre pour une sorte de célébrer quelque chose qui aurait pu advenir, un monde qui aurait pu advenir, mais qui adviendra jamais. Donc, je crois qu'on peut aussi, ouais, ça dépend du lecteur, de la lectrice, de savoir ce qu'il veut investir dans ce champ. Pour moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que même si la fin montre quand même des conditions très dures, notamment avec, à partir de 2030, des problèmes climatiques très sérieux, et en conséquence aussi une prolifération de barbarie, j'ai toujours gardé jusqu'à la fin des poches des poches d'humanité, des poches justement où des groupes peuvent continuer à fonctionner avec des pactes sociaux, en fait, et de la solidarité. Donc ça coexiste avec la violence la plus extrême. Ça coexiste, pour moi, comme c'est construit, ces communautés qui sont plus pacifiques, elles continuent jusqu'à la fin de ma fiction d'exister. Elles ne sont pas détruites, en fait.
C'était important pour vous de ne pas avoir de... Comment dire, je ne sais pas si on doit dire de message ou de réponse, finalement. On a le sentiment que le livre, c'est aussi une machine à questions. Alors, il y a évidemment des hypothèses, il y a de la documentation, il y a du matériau qui fonde, finalement, cette fiction. Mais en même temps, elle reste un endroit du questionnement, de l'impalpalpable.
On n'est pas dans un tract politique.
Oui et non. On est quand même dans une désignation de coupable, même si la responsabilité est diffuse, qu'elle n'est pas que dans les ménages et les citoyens, qu'elle est aussi, bien sûr, chez les responsables, chez les actionnaires, etc. Mais quand même, le premier champ dit quand même une responsabilité. Donc, on le sait tous, je crois. Même si on est coincé, on sait tous que quand on va faire le plein avec notre voiture, c'est pas dans notre intérêt, quoi. Mais donc je trouve qu'il y a quand même une dimension de message assez forte, en fait, que j'ai envie d'assumer, moi. Après, ce que ça dit vraiment sur le futur, j'ai l'impression que là aussi, c'est ambigu. On pourrait dire que ça dit vraiment un avertissement, attention à ce qui pourrait nous arriver si on continue sans prendre de mesures immédiates. Mais ça peut aussi dire, voilà ce qui va, quoi qu'il arrive, nous arriver, voilà ce qui va se passer. En raison de notre comportement des 40 dernières années, quoi. Donc c'est déjà joué, certaines issues sont déjà jouées. Et ça, je crois que c'est quand même une idée avec laquelle il va falloir apprendre à composer.
Est-ce que
n'est pas joué, mais oui.
Est-ce que justement le livre tel que vous l'avez écrit, vous l'avez aussi écrit avec en tête une sorte de tradition littéraire, ou est-ce que vous êtes avant tout ancré dans le temps présent, dans cette dimension politique, dans l'envie d'avoir une vision de l'avenir, ou est-ce que c'est aussi de s'inscrire finalement dans une sorte d'héritage littéraire qui pourra être lié au corpus de Jean-Paul, mais pas seulement? Comment vous l'envisagez aussi, ce rapport à, oui, la fiction d'apocalypse, en tout cas quelque chose qui s'inscrit dans un genre littéraire en soi, à un moment qui est sans doute très, très aigu, évidemment?
Bon, sur un plan purement stylistique, les chapitres vraiment adoptent des conventions un peu roman 19e, assez classiques, un passé simple, une narration à troisième personne, narration plus ou moins omnisciente, plus ou moins dans le point de vue des personnages. Donc après, il y a peut-être plus de recherche formelle, encore que c'est pas non plus une forme complètement inédite, mais de ce nous féminin pluriel. Après, dans l'inscription de ce livre, moi j'ai pas le recul maintenant pour savoir dans l'inscription du genre post-apocalyptique où mon roman se situe exactement, mais c'est clair que de lire un livre comme celui de Jean-Paul Langelibert, c'était très intéressant pour moi, justement parce que ça m'offrait comme des repères, dans un panel d'œuvres existantes, aussi bien dans le cinéma que dans la littérature, où je pouvais me dire, ah voilà, ça j'en suis, ça j'en suis un peu moins.
Jean-Paul, peut-être pour conclure la conversation, on arrive presque au bout de notre heure. Peut-être, je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou nous dire un mot de la manière dont vous...
Pour moi, la tradition littéraire dans laquelle ça s'inscrit, c'est celle de l'utopie. Ce qui me trouble et ce que je trouve très très significatif dans tous ces romans et celui d'Antoinette compris, c'est que l'utopie s'est transformée aujourd'hui en récit post-apocalyptique, c'est-à-dire que pour imaginer un monde meilleur, il faut le détruire d'abord. Mais ces récits jouent exactement pour nous le rôle que les utopies jouaient pour les hommes et les femmes du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on imaginait l'utopie de l'autre côté de l'océan et on réfléchissait à la forme politique de nos sociétés en figurant une société imaginaire de l'autre côté de l'océan. Maintenant, on réfléchit à notre futur immédiat, c'est-à-dire à la forme politique de notre vie, en figurant un monde futur détruit et en imaginant ce qui pourra renaître après. Donc c'est pas la même perception de l'histoire, c'est pas la même manière de vivre notre monde, mais ces fictions d'apocalypse, elles se situent exactement là.
Vous parlez un petit peu aussi des autres lieux hors la littérature. Qu'est-ce que les fictions d'apocalypse littéraires ont en elles, selon vous, de...
Par rapport au cinéma,
par exemple, est-ce que précisément ce qu'on a décrit sur le livre d'Antoinette, cette incarnation, le monde sensible, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique?
Ça pourrait donner exactement la même chose au cinéma. Je ne pense pas qu'il y ait une différence d'essence. On pourrait filmer exactement la même chose. La grande différence, elle est sans doute que pour produire un film apocalyptique, il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut des décors, il faut du grand spectacle, etc. Et quand on produit un film avec beaucoup d'argent, on sait qu'il faut un public pour le rentabiliser. Donc on produit un film qui sera susceptible d'attirer ce public. Ça veut dire qu'on ne va pas risquer de le brosser à rebours du poil. C'est pour ça qu'au cinéma, les films apocalyptiques sont très souvent des films très consensuels qui nous endorment plus qu'ils nous réveillent. Alors, dans toutes les fictions apocalyptiques, il y a cette tension. Il y a d'un côté, c'est ce que disait Antoinette tout à l'heure, il y a d'un côté le risque de dire ben, l'effondrement de toute façon va se produire, on n'y peut rien, et donc on est dans une position fataliste, résignée, et ça nous amène plutôt à dire à quoi bon, ben, finalement, je vais vivre comme avant, puisque de toute façon, on est tous condamnés. Je pense sérieusement qu'il y a des gens qui pensent ça, mais ça peut produire aussi la tentation du réveil, ça peut produire aussi l'étincelle qui va nous réveiller, nous faire penser qu'il n'y a pas d'action assez radicale pour éviter ce qui nous menace, parce que ce qui nous menace n'a jamais été aussi dangereux et aussi global qu'aujourd'hui. Et toutes les fictions, je pense, sont dans cette tension-là, parce qu'elles risquent de produire l'un ou l'autre effet. La seule manière, et ça c'est vrai au cinéma comme en littérature, de nous prévenir de la résignation, c'est de jamais nous laisser en repos, de jamais nous laisser penser que l'effondrement c'est confortable. Donc c'est de pas produire une lecture confortable ou de pas produire une position de spectateur confortable dans le film. Et ça c'est bon, l'art de l'auteur se verra à ça.
Antoinette, peut-être là-dessus, parce que votre livre, en effet, il est inconfortable d'une certaine manière, et en même temps, il y a une sorte de tension narrative qui donne envie de continuer et d'y aller et d'aller voir précisément. C'est aussi une tension narrative que vous aviez envie de placer, à la fois bousculée, voire malaisée.
Oui, mais j'avais aussi l'ambition d'un plaisir de l'histoire, tout simplement, l'idée, l'espoir qu'on soit emporté en fait dans les péripéties, dans ce qui se passe, ce qui arrive à ces personnages.
Même si on est légèrement bousculé, en effet,
évidemment
le rôle de ce livre et de la littérature. On va s'arrêter là. Je crois que vous pouvez retrouver Jean-Paul et Antoinette pour un petit temps de signature, juste là, dans la foulée qui doit avoir lieu, j'imagine, à la librairie, juste là. Et puis vous annoncez qu'à 19h, il y aura notamment une rencontre avec Laurent Binet en espace presse de la BPI. Pour une revue de presse de Laurent Binet, j'imagine que ça vaut le détour. Vous voulez ajouter un mot, Inès, si vous voulez.
Merci. J'ajoute que donc les dédicaces auront lieu ici pour ceux qui souhaitent assister à la rencontre avec Laurent Binet dans l'espace presse. Il vous faut prendre un laissez-passer à la banque d'accueil. Voilà. Merci.